VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
17h temps universel, bonsoir, bienvenue. Au moins une vingtaine de militaires de l'AMISOM ont péri dans un attentat à la voiture piégée en Somalie. Les islamistes somaliens de Shebab ont attaqué aujourd'hui une base ougandaise de l'AMISOM dans le sud de la Somalie où la situation restait confuse. La force africaine nia en avoir perdu le contrôle. Les Shebab ont eux affirmé qu'une cinquantaine de soldats de l'Union africaine avaient été tués et que de nombreux autres s'étaient noyés en fuyant à travers un cours d'eau proche, un bilan impossible à vérifier de sources indépendantes. Deux soldats maliens ont été tués aujourd'hui dans l'attaque d'un poste militaire à Tombouctou, dans le nord du Mali, a indiqué le ministère malien de la Défense, et d'une source de sécurité à la mission de l'ONU dans le pays, la MINUSMA. Et on reste au Mali pour le dossier de ce journal. Le nord du Mali est toujours sous tension après avoir accepté de se retirer de la ville d'Anéfis. Le Gassia, mouvement pro-gouvernemental, pose de nouvelles conditions, affirmant que la population souhaite rester sous leur protection. Pour faire le point sur la situation, Claire Morin-Gibou a joint le directeur de publication du journal malien, le Prétoire, Draman Fall.
Malheureusement, l'occupation de cette ville du nord du Mali va en porte-à-faux avec les accords d'Alger qui demandent que chaque parti doit garder sa position. Donc tout le problème aujourd'hui, c'est de revenir dans l'accord d'Alger, alors que malgré l'intervention du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a rencontré les responsables de la plateforme de Gacha à Bamako l'autre jour pour leur soumet de quitter la ville d'Anéfis, les troupes sur le terrain refusent catégoriquement de le faire. C'est-à-dire qu'il y a une rupture entre la base et le sommet. De ce que nous sommes dans un imbroglio qui ne dit pas son nom.
Est-ce que ce refus des combattants et des chefs militaires de quitter Anéfis, ce n'était pas prévisible pour vous?
Ben, c'était prévisible parce que durant l'occupation de cette ville par les troupes de MNLA, ils n'ont cessé de violer les droits les plus élémentaires des populations locales. Donc la cohabitation était devenue telle que c'était une question de survie. Et c'est ce que la plateforme a compris et ils sont allés contre l'avis de tout le monde, de l'opinion internationale et même de Bamako. Bamako n'a aucune prise aujourd'hui sur ces troupes qui occupent Anéfis. Donc si on ne fait pas attention, ce serait un éternel recommencement parce que au-delà même de Anéfis, c'est la ville même de Kidal qui est encerclée. Et l'attaque est imminente, ça peut déborder à tout moment. C'est pourquoi le président Ibeka est allé en Algérie et il est à Niamey aujourd'hui vraiment pour essayer de trouver une solution à cette situation qui risque vraiment de remettre tout en cause.
Est-ce que les possibilités de négociation du président Ibrahim Boubacar Keïta ne s'amenuisent pas de jour en jour vis-à-vis de cette situation?
Mais ça s'est déjà amenuisé parce qu'il les a rencontrés afin de leur soumettre de quitter la ville d'Anéfis. Les dirigeants ont fait un accord, mais sur le terrain, les troupes ont refusé catégoriquement. Donc nous sommes face à une situation de blocage devant laquelle le président Ibrahim Boubacar Keïta lui-même n'a plus les mains libres. C'est pourquoi il est en train de passer par Alger et Niamey pour trouver une solution à cette situation. Parce que l'objectif de ces populations, c'est qu'ils ont soif de la liberté, ils ont soif de libérer leur territoire. Ils ne sont pas dans la même dynamique que Bamako, qui veut contenter l'opinion internationale. Donc voilà l'équation devant laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Il y a un véritable blocage, le processus de paix est véritablement menacé et les gars de la plateforme qui sont pro-gouvernementaux ne veulent plus lâcher. Ils veulent coûte que coûte en découdre avec ces groupes rebelles, les MNLA, les autres membres de la coalition des groupes armés. C'est la situation qui se présente au nord maintenant.
Draman Fall, directeur de publication du journal Le Prétoire, basé à Bamako. En Libye, le groupe État islamique a revendiqué aujourd'hui l'attentat à la voiture piégée perpétrée la veille à Tripoli, près du siège de la compagnie Melita Oil and Gas. Une attaque à une personne a été blessée au cours de cette attaque.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
On va en République démocratique du Congo. L'ancien chef de guerre Bosco Ntaganda, accusé de crimes contre l'humanité en RDC, est en bonne forme et maintient son innocence avant l'ouverture de son procès devant la Cour pénale internationale. Indiqué aujourd'hui son avocat, l'ancien rebelle surnommé Terminator, doit répondre de 13 chefs d'accusation pour crimes de guerre et de 5 pour crimes contre l'humanité. Il est notamment accusé d'avoir enrôlé des enfants soldats et une première en justice internationale, violé des enfants dans sa propre milice. Procès en appel de l'assassinat de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana devant la haute cour militaire. Les débats ont été clôturés hier à Kinshasa après les répliques des parties. L'affaire a été renvoyée en délibéré. Le verdict est attendu maintenant pour le jeudi 17 septembre prochain. Prenant la parole en dernier, tous les prévenus ont plaidé une fois de plus non coupables des faits mis à leur charge. Maître Richard Bondo, l'un des avocats des parties civiles, se montre tout de même confiant quant à l'issue de ce procès.
Les parties civiles, dans un procès comme celui-ci, accompagnent l'accusation, en l'occurrence l'auditeur général des forces armées de la RDC. Donc tout ce que les prévenus et leurs conseils ont dit s'inscrit dans la droite ligne de leur stratégie de défense de tout nier. C'est-à-dire pour eux, Tchebeya n'a jamais été au quartier général de la police nationale. Tchebeya n'a jamais été invité par le général Numbi. Mukalai n'a jamais utilisé Mouila pour déposer l'invitation et monter le guet-apens contre Tchebeya. Donc c'est leur stratégie, mais nous avons démontré et décortiqué cela dans le sens de faire voir, avec le concours du ministère public qui est l'accusation, que les faits sont établis dans le chef des prévenus et que tous ceux qui ont été acquittés devraient voir l'arrêt qui leur était favorable et réformé dans le sens de les condamner, et ceux qui ont été condamnés, le même arrêt être confirmé pour néanmoins, pas à la peine capitale, condamné à la peine capitale, mais comme le ministère public et nous l'avons postulé, à la servitude pénale à perpétuité.
Quelle est la voie qui vous reste au cas où la Cour venait à acquitter tous les prévenus?
Le ministère public pourra former le pouvoir en cassation et nous l'accompagnerons.
Maître Richard Bondo, l'un des avocats des parties civiles, au micro de Cyril Milandou de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Le président chinois Xi Jinping a accueilli aujourd'hui à Pékin son homologue soudanais Omar el-Béchir, en le qualifiant de vieil ami du peuple chinois. Le leader du Soudan, inculpé pour crime de guerre par la Cour pénale internationale, va assister jeudi au défilé militaire organisé par la Chine pour marquer le 70e anniversaire de la capitulation du Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Pékin est le premier partenaire commercial du Soudan et le premier investisseur dans le pays. Washington avait mis Pékin en garde contre la visite du président Béchir en rappelant que ce dernier était sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI pour crime de guerre au Darfour.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Plus de 2643 personnes sont mortes en mer après avoir tenté de rallier l'Europe, a annoncé aujourd'hui l'Organisation internationale pour les migrations. Au total, plus de 350 000 personnes ont traversé la Méditerranée cette année, contre quelque 219 000 en 2014. Vendredi, en fin de journée, l'OIM parlait d'environ 330 000 migrants et réfugiés ayant effectué la périlleuse traversée depuis le mois de janvier. Le procureur général du Koweït a inculpé 24 personnes. Elles sont accusées d'intelligence avec la République islamique d'Iran et le Hezbollah libanais. Les inculpés se préparaient, selon la justice koweïtienne, à mener des actes d'agression contre le Koweït, et ce, en se livrant à un trafic d'armes, d'explosifs, d'armes automatiques et de munitions. Ils sont également accusés d'avoir entrepris des actes de nature à nuire à l'unité et à l'intégrité territoriale du Koweït. Au Yémen, une vingtaine d'hommes armés, dont 17 rebelles, ont été tués dans une série de raids aériens lancés par la coalition arabe sous commandement saoudien dans le sud-est du pays, ont indiqué aujourd'hui des sources militaires. Les avions de combat ont visé ces 24 dernières heures le QG de la 19e brigade d'infanterie, contrôlée par des rebelles chiites houthis dans la région de Bayan, dans le nord de la province de Chabwa, aux confins de la province de Marib, théâtre de combat entre les forces loyalistes et les insurgés. 17 rebelles ont donc péri dans les raids et 3 combattants pro-gouvernementaux ont été tués lorsque leur position a été bombardée par erreur par l'aviation de la coalition, ont précisé la même source. Je rappelle que en début de journal, au moins 19 militaires de l'AMISCOM ont péri dans un attentat à la voiture piégée. Les islamistes somaliens Shebab ont attaqué aujourd'hui donc une base ougandaise de l'AMISOM dans le sud de la Somalie, où la situation, au moment où nous parlons, restait encore confuse, la force africaine liant en avoir perdu le contrôle. Jean-Roger Billon à ce microphone, merci de nous avoir suivis. Prochain journal, c'est seulement dans 20 minutes dans le cadre du magazine Le Monde Aujourd'hui. À tout à l'heure pour d'autres informations.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.